Chaque instant de notre existence est une bénédiction et forçons-nous d'en tirer le meilleur pour faire le bien autour de nous. C'est dans cet esprit que nous entamons le Faboudirène de cette semaine, votre émission qui porte la voix des personnes vulnérables. Et ce dimanche, nous allons parler de l'hivernage qui s'installe peu à peu dans le pays. Une période particulière pour les personnes qui vivent sur les sites des déplacés. L'inadaptation de leur environnement de vie et la gestion des déchets en ces moments d'hiver complique davantage la vie à ces personnes déjà vulnérables. Au cours de cette émission, vous comprendrez comment les personnes déplacées internes se préparent pour combattre ce défi quotidien. Dans notre rubrique Sketch, nos amis Zabiatou et Hamadi nous parlent de la nostalgie qui anime des paysans déplacés internes. Et notre proverbe de la semaine dit « Quand un arbre tombe, on l'entend, quand la forêt pousse, pas un seul bruit ». Un traditionnaliste Ayoroso nous donnera son regard là-dessus. Le développement de ces titres, c'est tout de suite avec Draman Meiga. La partie technique est assurée par Nohum Diré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La dégradation de la situation sécuritaire a provoqué le déplacement de plusieurs familles à la recherche des conditions de vie décentes. Ces personnes abandonnent leur foyer, leur terre pour tenter de se reconstruire sur des sites des déplacés où le fourre-tout exige des nouveaux modes d'organisation et de gestion de l'espace. En décembre 2023, on comptait près de 355 000 personnes déplacées internes dans l'ensemble du pays. Ces PDI sont répartis entre des sites dont les plus concentrés sont à Bamako, Badjagara, Mopti et Menaka. Comment ces sites sont-ils organisés et administrés? Plus de détails dans ce magazine signé Intala Akbilal.
À la date d'aujourd'hui, le plus gros site des personnes déplacées internes du Mali se trouve à Sénou dans la périphérie de Bamako. Ce site qui regorge de nos jours plus de 1200 personnes déplacées venues des régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, Menaka et Badjangara a été créé en février 2019. Il est maintenant devenu comme un village où des centaines de personnes y vivent normalement. Fêtent des baptêmes, des mariages et organisent leur vie au quotidien, a indiqué Abdrahman Nyamatogora, coordinateur national des sites des déplacés internes à la Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire. Selon lui, ce camp est géré suivant la stratégie nationale des solutions durables.
Concernant la gestion des personnes déplacées internes sur les sites dans la durée, le gouvernement a opté pour les solutions durables, c'est-à-dire faire en sorte que ces personnes puissent quitter définitivement l'assistanat et être autonomes et être productives au niveau du tissu économique. C'est les accompagner à développer des initiatives économiques pour ne plus dépendre de l'assistanat. C'est aussi les accompagner à être autonomes dans les localités de déplacement. Le dernier versant, c'est la réinstallation.
Sadio Koulibaly est l'une des personnes vivant sur ce site. Cela fait maintenant 6 ans déjà que le sexagénaire arrivé de Bankas vit dans ses camps avec sa femme et ses enfants. Il nous raconte son combat quotidien pour survivre dans une grande ville loin de ses terres cultivables.
Nous vivons de la précarité. Nous ne pouvons pas cultiver et n'avons pas de source de revenus stable. Je viens d'un dépôt d'ordures comme ça. Je trie des ordures. C'est cette activité qui me permet de survivre. Puisque nous avons un peu de riz, je cherche les frais de condiment. Nos enfants partent à l'école. Leur scolarité et les fournitures sont prises en charge.
Le site des déplacés le plus récent est celui installé récemment par la Croix-Rouge dans la ville de Bandiagara. Ce site est créé en mars 2023, mais il a été occupé en février 2025. Il est composé de 163 ménages de 819 individus. Ce camp de déplacés est géré par un comité restreint de 9 personnes, dont des femmes et des personnes âgées, a affirmé Amadou Yanougué, vice-président du comité de gestion.
Notre comité est composé de 9 personnes, dont 4 femmes. Ils s'occupent de la gestion des sites de déchets, entre autres. Chaque jour, 2 membres font la veille et vérifient si tout va bien. Les femmes aménagent les cuisines avec des pierres et banco, donc elles ne préparent pas dans les cases.
Ici, la gestion du site est saluée par les communautés des villages de Woro, de Gembere, Dunduru, Assa et Ondosa vivant sur le site. Pour le septuagénaire Sédou Yanougué, tous les déplacés du site veillent à l'assainissement et au bien-être de ce qu'ils appellent leur nouveau village.
Les jeunes partent sur les sentiers de construction et gagnent un peu leur vie. Les femmes exploitent le sable, mènent des petites activités comme le commerce pour acheter des condiments. Nous les hommes, nous évoluons dans l'élevage.
En fin janvier 2024, la région de Mopti comptait plus de 91 282 personnes déplacées internes réparties entre 21 855 ménages. Nous explique Boubacar Djembe Dougou Diallo, chef de division défense et protection sociale à la direction sociale et de l'économie solidaire de Mopti. Selon lui, des mécanismes ont été mis en place pour assister tous les déplacés et accompagner leur réinsertion socio-professionnelle à court et long terme.
Nous mobilisons les partenaires pour nous accompagner pour l'évaluation des besoins. Et après l'évaluation, il y a toujours une assistance. Et parmi les humanitaires, il y a des acteurs qu'on appelle les acteurs RRM, c'est-à-dire le mécanisme de réponse rapide. Au moment où ils arrivent, qu'ils puissent bénéficier le plus tôt possible d'une assistance. Et même après ces premières assistances qu'ils reçoivent des acteurs RRM, il y a le poste RRM. Il y a d'autres acteurs tels que le PAM et autres qui se positionnent pour les accompagner encore 6 mois et au-delà même.
L'un des plus grands sites de la région est celui de Sokoura, installé depuis le 4 avril 2019. Ce site accueille des communautés Peul, Bozo, Dogon, Bambara, Senoufo et Tamachek. Il est géré par une commission avec des démembrements contrôlant pour certains la sécurité, l'assainissement et pour d'autres l'éducation, la santé et la gestion des conflits. Cette commission est en parfaite coordination avec le développement social.
Ce sont les différents comités qui gèrent tous les sites. Certains sécurisent, d'autres sont focalisés sur les soins. Il y a un comité qui s'occupe de la femme et des enfants, en plus de ceux dédiés à l'éducation et à la propriété du site. Il y a aussi des communicants traditionnels qui informent et organisent des événements.
Notons que les camps des personnes déplacées internes concentrent en quelques centaines de mètres carrés des cas d'une pauvreté et d'une vulnérabilité extrême. En décembre 2023, les rapports sur les mouvements de population de l'Organisation internationale pour les migrations OIM soulignent que les camps des personnes déplacées, notamment ceux de Bamako et Mopti, accueillant entre eux plus de 20 000 personnes, sont les liés des indicateurs rouges, particulièrement affectés par une crise alimentaire et nutritionnelle. Ces personnes vulnérables ont plus que jamais besoin d'une assistance humanitaire.
Un sujet réalisé par Intala Akbilal. Il est clair qu'en plus des solutions entreprises par les autorités, les personnes déplacées internes elles-mêmes se sont organisées afin de trouver des solutions ensemble et améliorer leur quotidien. Pendant ce temps, l'ONU a annoncé ce lundi 16 juin une réduction drastique de l'aide humanitaire mondiale cette année. Une décision qui va aggraver le sort déjà précaire des dizaines de millions de personnes cette année. Au Mali, sur les 771 millions de dollars jugés nécessaires pour répondre aux besoins de 4,7 millions de personnes, seulement 65 millions avaient été mobilisés à la mi-juin. Cette réduction drastique est annoncée alors que les déplacements massifs continuent dans certaines régions du Mali. C'est le cas à Sant où ces dernières semaines, la ville a enregistré plus de 4000 personnes déplacées selon Alassane Kone, chargé du programme Solidarité et Action Humanitaire au service du développement social de Sant. Il précise que ces familles viennent des cercles de Tominia, notamment de la commune de Timissa et Lafiala. Cette semaine, presque toutes les régions du Mali ont reçu leur première averse. À travers le pays, de nombreuses localités abritent des sites accueillant des personnes déplacées, construits principalement avec de la paille et des bâches. Ces abris sont affectés par les vents violents, eux, par les fortes pluies, selon les témoignages des personnes déplacées. Lors de notre visite cette semaine sur le site des déplacés de Faladje à Bamako, après la pluie, il était impossible d'éviter les eaux stagnantes. Cette situation est difficile pour ces familles qui vivent déjà dans la précarité. Nous accueillons aujourd'hui Mme Fatoumata Meïga, maître de conférence en géographie de l'environnement. Nous allons parler des intempéries auxquelles ces hommes et femmes font face et les solutions face à cette situation.
Avec ces premières pluies, il y a de l'eau partout, difficile de marcher. Quelles peuvent être les intempéries auxquelles ces hommes et femmes qui sont sur ces sites font face?
Une intempérie, c'est quoi d'abord? Une intempérie, c'est une condition météorologique extrême. Tout ce qui est lié au climat, mais qui vient de façon exagérée. Et parmi les intempéries, pour le cas malien, on peut citer la forte pluie, qui dans la plupart des cas est accompagnée par des inondations. On peut citer les vents violents, on peut citer la canicule, la grande chaleur, la forte chaleur. On peut également citer la grande fraîcheur, sans oublier les tornades. Tous ces facteurs-là font partie des intempéries lorsqu'il s'agit du Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conséquences également diffèrent en fonction du type d'intempérie que nous avons en face de nous. Une intempérie liée à la grande chaleur est différente d'une intempérie liée au grand vent. Chaque type d'intempérie a son type de conséquence. Pour le cas du Mali, cette année, on a peur. En réalité, la société a peur parce que on a vécu une situation en 2024 qui a pratiquement touché tout le monde, pas seulement le Mali, mais même les pays soi-disant développés ou les pays émergents ont été vraiment victimes des problèmes liés au phénomène climatique et précisément l'inondation. Quand la population s'accroît, il y a un problème lié à leur installation. Il faut un abri pour tout le monde. Et cette installation va amener une certaine couche de la population à accepter certaines situations. Les infrastructures qui existent déjà pour la population autochtone, si je me permets, la population qui est déjà installée dans un endroit. Et malheureusement, ces infrastructures ne sont pas assez suffisantes pour la population même qui est déjà là. Donc, avec le déplacement climatique ou les déplacés climatiques, ils viennent en ajouter à une population qui est déjà dans une insuffisance en termes de services sociaux de base. Donc, vous voyez déjà le problème que ça va créer. Parce qu'il y aura une petite infrastructure pour une masse qui est déjà dans le besoin et on va en ajouter une autre masse et ça va commencer à poser des problèmes. Il y a un autre problème, ça c'est surtout les défis liés à la mise en application des mesures prises par l'État. Un autre élément qui n'est pas tellement visible, mais qui peut être une réalité, ça c'est la phase de sécurité alimentaire, par exemple.
Comment assister, notamment les autochtones dont vous avez parlé, les populations qui n'ont pas assez d'infrastructures de base déjà, en plus de ces personnes, les personnes déplacées, comment assister ces personnes pour améliorer leur environnement et leur cadre de vie?
De mon point de vue, lorsqu'il s'agit d'assister ces déplacés-là, il faut une synergie d'approche. L'approche peut être humanitaire ou elle peut être structurelle. Structurelle à moyen terme ou à long terme. Parce que le climat a ses exigences. Dans tout aménagement de l'État, on ne prévoit pas un endroit pour au cas. Au cas. Nous, on est là aujourd'hui. Si jamais une situation de sanitaire se présente, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne prévoit pas au Mali. Ça, c'est un danger, un très grand danger. Ce qui fait que ces déplacés vont avoir toujours des problèmes parce que l'État n'arrive pas à les intégrer dans ses techniques d'aménagement territorial. Il faut les prévoir. Qu'il y ait inondation ou pas, qu'il y ait catastrophe naturelle ou pas, il faut prévoir. Il faut réserver tout un site pour ces situations de ce genre-là. Donc, si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on va aménager l'espace en construisant des habitats, même si c'est des habitats qui ne demandent pas trop de luxe, mais des habitats temporaires, qui, en cas de catastrophe naturelle, la personne va être dans l'abri pendant un temps plus ou moins long. Installer des petites écoles, des écoles mobiles, des dispensaires mobiles, des toilettes mobiles, parce que c'est réservé pour des gens qui ne sont pas là pérennement, tout le temps. Ils sont là uniquement parce qu'il y a une situation. Quand la situation va être résolue, on va les déplacer. Donc, on n'a pas besoin d'aller construire des buildings, des trucs là. Non, on n'a pas forcément besoin de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut même être prévu comme un terrain de football. La manière dont on prévoit un terrain de football, on peut également prévoir un terrain de déplacer ou pendant l'approche des hivernages, on va installer des équipements, on appelle ça des préfabriqués, des maisons préfabriquées, des toilettes préfabriquées. On va installer ça dans une hygiène vraiment commodité acceptable. et pendant un temps bien délimité.
Merci à Mme Fatoumata Meïga pour ses premières précisions sur les impacts environnementaux auxquels sont confrontées les personnes déplacées internes. Poursuivant sur la dynamique du début, nous allons maintenant laisser la parole à nos amis Zabiatou et Hamadi dans notre rubrique Sketch. Zabiatou et Hamadi se rencontrent par hasard en ville. Ils évoquent leurs activités pendant les saisons de pluie. Hamadi était un paysan qui récoltait de quoi subvenir aux besoins annuels de sa famille et vendait un excédent important. De son côté, Zabiatou cultivait dans son jardin une grande variété de légumes. Suivons.
Bonjour ici. Où est Hamadi?
Il doit se trouver devant. Passez par là.
Merci. Hamadi, bonjour. Mon frère. Et Hamadi?
Oui, ma sœur Zabiatou. Bonjour. Tu es toute trempée là. Pourquoi tu te promènes sous cette forte pluie?
Ben, j'étais au marché. Tu sais bien qu'on le dit souvent dans un jargon bambara. Soroma sangi te mokokele ngoshi. Comme pour dire, la pluie matinelle mouille plus d'un.
Ce n'est pas faux. Alors, prends place en attendant.
Merci. Mais toi, tu n'es pas dans ton assiette ce matin. Pourtant, il fait beau temps avec cette averse.
C'est vrai, il fait moins chaud. Mais avec cette pluie, je pense plutôt à mon village. À chaque saison pluvieuse, nous cultivions le maïs, le mil, le sorgho, de l'arachide entre autres.
Je comprends ta frustration. Ça m'arrive souvent aussi de penser à mon jardin que j'étais obligée d'abandonner. J'y développais le gombo et un peu d'oseille. Tu vois le gombo dans mon panier? J'ai acheté l'état très cher. Quand j'y pense, je n'en reviens pas. Surtout que je me débrouille avec mes maigres sous.
Tu sais, Zabiatou, nous sommes habitués à vivre de nos efforts, à cultiver pour stocker nos besoins annuels et aussi à vendre les surplus. Tout ceci contribuait à la sécurité alimentaire. Et dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, nous attendons des appuis.
C'est vraiment triste, mais ce n'est pas une fatalité. Ne nous laissons pas abattre par ces circonstances. En ville, nous allons réfléchir aux différentes activités que nous pouvons mener pendant cette saison.
Merci pour ces mots. J'avoue que c'est dur, mais nous pouvons entreprendre. Cependant, pour ce faire, il nous faut aussi un appui.
Alors, nous allons nous renseigner au niveau des ONG humanitaires. Hamadi, on dirait qu'il ne pleut plus. Je rentre faire une sauce au gombo. Tu es invité.
Merci pour le conseil et pour l'invitation. Fais-moi aussi du thé avant midi. J'en profiterai pour causer avec ton mari.
D'accord, à tout à l'heure alors.
Zabiatou et Hamadi gardent de précieux souvenirs de leurs localités respectives. Surtout avec l'arrivée de la saison des pluies, nos deux amis pensent davantage à leurs champs, à ce qu'ils peuvent apporter à leur communauté, voire même au pays. N'oublions pas qu'ils ne baissent pas les bras, prions pour le retour de la paix dans chaque région du Mali et que tout rentre dans l'ordre. Si vous venez de nous capter, sachez que vous suivez Studio Tamani partout dans le pays grâce à nos radios partenaires et via nos plateformes digitales. Place maintenant à la deuxième partie de cette émission. Et nous allons adresser des questions spécifiques à Dr Fatoumata Meïga. Dans le cas général au Mali, notamment dans les grandes villes, comment mieux gérer les déchets en cette période et les différentes mesures que les personnes déplacées elles-mêmes peuvent entreprendre pour mieux s'adapter à cette situation.
La gestion des déchets qui est déjà une casse-tête sur ces sites des déplacés. En général, même partout au Mali, surtout dans les grandes villes, quand les eaux de pluie s'y ajoutent, quels peuvent être les impacts?
Vous venez de dire que la gestion des déchets est déjà un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que la nature a prévu que les déchets font partir de l'homme. L'homme avec grand H. C'est une partie de nous. Parce que l'homme naît avec les déchets en main. Tu viens dans un placenta, tu viens tout ton corps mué, où on doit évacuer ces déchets-là sur ton corps-là pour te mettre dans un environnement. Donc, du moment où la vie de l'homme est accompagnée par des déchets, c'est à nous de nous adapter à ces déchets-là. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Et tant qu'on ne s'adapte pas aux déchets, Il va toujours poser un problème de gestion. Aujourd'hui, on pense que les déchets constituent un problème.
Comment en faire une solution alors, si ce n'est pas un problème?
Voilà, maintenant, c'est pas un problème.
Comment gérer cette situation?
Voilà, comment gérer en ce moment? Nous avons vu dans les pays développés, aujourd'hui, tout le monde est confronté à des déchets, mais eux, ils arrivent à tirer profit de ces déchets-là. Pourquoi on ne fait pas la même chose? On doit d'abord sensibiliser la population pour les faire comprendre que tant que tu vivras là, tu auras toujours des déchets à côté de toi. Maintenant, comme il fait partie de moi, là, comment je dois faire? Je dois le rendre plus propre. Comment je rends le déchet plus propre? C'est d'abord en le triant. Ce papier-là, je le mets dans une boîte de papier. Le verre, je mets dans une boîte de verre. Le plastique, je mets dans une boîte de plastique. Les restes d'aliments, je mets également dans une boîte d'aliments. Et en ce moment, le reste là, va venir. Et je vais faire de telle sorte que chaque type de déchet va avoir une destination. Je vais mettre l'accent sur les tri parce que c'est le départ de toute gestion des déchets. Quand tu prends la population aujourd'hui, c'est que l'État, le Malien lambda met dans les traitements, par exemple, pas seulement le paludisme, mais la santé. Ce que le Malien met dans la santé, dans l'année, c'est vraiment une somme très importante dans la vie des Malais. Et quand tu fais le calcul, tu vas trouver que 90% des problèmes sanitaires d'un Malien est lié à ces facteurs d'environnement, à ces facteurs surtout liés à la gestion des déchets. Les dépôts d'ordures de transit, c'est un problème aujourd'hui au Mali. On doit obligatoirement intégrer dans l'aménagement du territoire, sur le même pied d'égalité, les autres équipements des services sociaux de base. Comme un hôpital, quand tu crées un hôpital, tu dois obligatoirement créer une décharge. Normalement, chaque quartier à Bamako doit avoir sa décharge, logiquement. Et pas une décharge en plein air. Hein. Tu ne vois pas une décharge à ciel ouvert comme ça dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, regardez sur la colline de Badarabuku, c'est un problème. Il y a combien d'étudiants aujourd'hui à la FSEC, par exemple, qui sont exposés à cette décharge-là, aux impacts environnementaux de cette décharge-là. Personne n'a fait un problème. Il y a toute une école à moins de 50 mètres de la décharge et une école primaire en plus. Ça veut dire que l'enfant est exposé à une pollution permanente pendant au moins 300 jours de l'année. Au bout de 10 ans, quel va être l'état de santé de cet enfant-là? Toujours en termes de gestion des déchets, il ne faut pas attendre que l'hivernage commence pour faire le curage des caniveaux. Qu'on essaie de transformer les déchets.
Comment est-ce que les personnes déplacées elles-mêmes peuvent s'adapter et tirer profit de la situation?
Leur adaptation dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend non seulement du contexte, ça dépend du type de déplacé, ça dépend du site d'accueil, ça peut également dépendre des prévisions, des politiques déjà existantes à la matière. Généralement des paysans ou bien des ménagères, voilà, ou bien des éleveurs, ils n'ont pas une formation professionnelle qui nécessite de les employer dans un bureau ou bien de les employer dans une usine pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est un problème que les déplacés ont dans la plupart des cas. Donc, ce qui fait que pour s'adapter et satisfaire ses petits besoins, ils se reconvertissent dans des petites activités, comme par exemple la maçonnerie, la menuiserie, l'artisanat, les petits commerces de rien, vendre des cacahuètes, mais des cigarettes ou bien des allumettes, parce qu'ils n'ont pas prévu qu'ils allaient quitter leur endroit pour aller dans un autre endroit.
Grand merci à notre invitée de la semaine, Madame Fatoumata Meïga. Nous vous rappelons qu'elle est maître de conférence en géographie de l'environnement. Merci à vous aussi, auditeurs et auditrices. Si nous sommes là, c'est grâce à vous. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Un peu de musique nous fera du bien. Et c'est à travers notre rubrique artiste de la semaine. Lalla Diarra Touré a accueilli Rasbi les génies dans nos locaux. Nous revenons sur leur échange.
Rasbi, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Oui, ça va très bien, vous-même.
Alhamdulillah, ça va. Heureuse de te retrouver dans cette rubrique. Alors, parle-nous un peu de toi. Qui est Rasbi le génie?
Artiste, rappeur, chanteur, auteur, compositeur, originaire de Tombouctou. Voilà, je suis né, grandi à Tombouctou. Et là, c'est ma carrière qui m'installe à Bamako.
Assez intéressant. Rasbi et l'art, comment ça s'est passé?
Bon, Rasbi et l'art, ça vient de très loin. Parce que je ne viens pas d'une famille de musique, mais Rasbi vient d'une famille vraiment composée de mélomanes, en fait. Mm-hmm. Voilà, la musique est très, très écoutée chez nous. Je ne pars que dans les radios, juste écouter de la musique où je peux avoir l'occasion de le faire.
On va dire que c'est une passion.
Voilà.
D'accord.
Au début, c'était vraiment une passion, mais aujourd'hui, c'est devenu un travail.
Vous avez beaucoup de titres à votre actif, notamment des albums aussi.
Tout à fait.
Ok. Vous avez fait également des collaborations avec d'autres artistes locaux, notamment Derkeb. Le titre, c'est Sobour.
Tout à fait.
Voilà, comment c'est venu?
D'abord, Derkeb, on s'était connu. C'est un artiste que j'ai apprécié avant de le connaître. Voilà, donc c'était dans le canal d'un de ses amis qui travaillait à Tombouctou. On a pu l'amener. Donc c'est dans cette occasion-là qu'on a pu vraiment... On a trouvé beaucoup de choses en commun, en fait. D'accord. Surtout l'amour de la musique.
Mais Sobour, ça veut dire savali en...
Savali,
voilà, ouais. Patience en français et savali en langue nationale bamalankan. Vous pouvez faire donner juste un petit bout.
Aye kundangu wana lwakati yamasiga bekana dumbundi denda nalhawa dichichimi yerwani beredi yotahawi masi chenye Sobour chila si masi chense Sobour chila si masi chenye Sobour chila si masi chense patiente un peu anga shaitan kaseni bajina damdi. Ayakur dengal wakati boy di ka dumbu gasi jirbi jari kur dukur bobodi go ko waira kapi hanni binadi manyali sene yenge jigira jari ayi kanu binni rati Sobour har moreda fila fila fo sene masi kenji hanga ne ku pa les gens je suis pas un inconnu pour toi on a des projets sauf si mister t'y verra si c'est là aujourd'hui. Sans doute, ce sera demain, Inch'Allah. Mon cœur t'a déjà choisi. Et je veux que tu sois la mère de mes enfants. Borakoun Nangoudjari, Yer Jari Dotogunandi, Inch'Allah. Et d'orpoto Tijila Jari, Aninga Maka, Aywani Jadez. Aye Gounangou, Wane Wakati, Demasi Gabenga Dumbuli, Deinda Lale Hawadi Tijimi, Derwani Beredi Otahawi Masi Chenye.
Ça fait quoi? Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson?
Chaque chose a son temps. Ne forçons pas le destin. Patientons. Et notre souhait se réalisera un jour.
D'accord. On le souhaite bien. En tout cas, le vôtre, il est devenu bel et bien réalité.
Oui, tout à fait.
Hier Koino, Aina Gondao, ce sont là aussi d'autres titres.
Oui.
Également, vous avez chanté aussi Buktu Mundei. Ça veut dire quoi?
Les larmes de Tombouctou.
Pourquoi?
Tombouctou est une ville très, 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 très sainte, tout le monde le sait. Voilà, Tombouctou vivait vraiment des moments très difficiles. Genre, vraiment, Tombouctou plairait ses enfants.
On va déjà écouter un petit bout de cette chanson.
Tombouctou, ma cité, je suis désolé. Par ton nom, que tes filles soient purifiées. Espérons que Sidi Yeye va nous pardonner. Nous avons perdu l'essence de la sainteté. L'impureté et l'impunité nous ont dominés.
Ok, moi j'ai bien envie de savoir, vous évoquez plusieurs thèmes dans vos chansons.
Tout à fait.
On a parlé de patience, on a parlé des larmes de Tombouctou, Yer Koino. D'où vient l'inspiration? Ou bien c'est les faits, c'est l'actualité?
Tout à fait.
C'est un constat que
tout
vous
à fait. Moi, au fait, ma force même dans la musique, ce sont mes paroles. Voilà, ce sont mes paroles qui me donnent beaucoup de force. Parce que moi, je ne cherche pas loin.
Ce que je vis, ce que je vois devant moi, c'est ce que je chante.
Voilà, c'était là l'artiste Razbi, le génie, le natif de Tombouctou, que nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir dans notre studio, sur notre plateau. Merci à vous, chers auditeurs, et à la semaine prochaine.
Qu'est-ce qui n'a pas marché, qui a déchiré les tissus sociaux?
L'amour, la paix, la cohésion sociale sont entre autres thèmes développés par cet artiste. La culture a toujours été un trait d'union entre les communautés. Que l'entente se fortifie entre les Maliens. À présent, la rubrique Proverbe de la semaine. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un seul bruit. C'est notre proverbe de la semaine. Salia Dao, enseignant à la retraite, donne son avis là-dessus. Le traditionnaliste est au micro de notre correspondant à Yoroso, Ali Haïdara.
Moi, je vais opiner sur deux plans. La première thèse, c'est qu'un enfant qui naît, quand il vient au monde, il vient tout bonnement et grandit. Bon, un enfant qui arrive à s'adapter et qui étudie, qui arrive à se faire une place dans la vie, il a poussé comme les arbres d'une forêt. Il a grandi, il a eu des capacités, il a eu des opportunités qu'il a mis au service de la nation. Je compare cette opportunité-là, ces avantages, ces services, comme les services que la forêt rend à la nature. La mort va l'emporter. Mais maintenant, quand il va partir, il va laisser un vide. Et ce vide-là, chacun va essayer d'opiner là-dessus. Il y aura un grand bruit. De, ah, ce monsieur ne devait pas mourir maintenant. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Il était utile à la... dans ce monde-là, dans la société. Deuxième hypothèse, les tonneaux vides font trop de bruit. Quand tu remplis une barrique d'eau ou bien d'un autre de liquide, tu pousses, ça passe inaperçu. Mais quand le tonneau est vide, hein, la barrique est vide, il n'y a rien là-dedans, tu la pousses, ça va faire, tout le monde va l'entendre. Le tonneau plein là, il a des capacités, il n'a pas besoin de se montrer pour dire je suis ceci, je suis cela, non. Il est reconnu à travers ses œuvres, à travers ses actes. Ce qu'il pose comme acte, c'est ça qui va le faire prévaloir. Hein? Mais celui qui fait trop de bruit là, c'est ce qu'on entend souvent là. Hein? Quand tu fais trop de bruit là, bon, ce qui veut dire que vraiment, il n'y a rien derrière toi quoi.
Et ce sont ces mots qui mettent fin à votre émission humanitaire Fabou Diren, un numéro qui vous a été présenté par Draman Meiga. Si vous venez de nous capter, ne vous inquiétez pas, vous trouverez cette production et tant d'autres sur notre site web www.studiotamani.org. Nous vous rappelons aussi que certaines de nos productions sont disponibles sur notre groupe WhatsApp. Pour y accéder, enregistrez les numéros suivants 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquez sur l'icône WhatsApp. Aussi, vous pouvez nous faire parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous engageons à les traiter avec diligence. Merci de votre fidélité à nos programmes. Ne décrochez pas car tout de suite, la version en langue nationale Bamanankan.